Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast.
Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Pour cet épisode, comme toujours, nous allons parler de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une partie zapping et actu, suivie d'un billet d'innovation et à la fin, des archives, le tout en une trentaine de minutes. Que vous soyez un pro, un passionné ou juste curieux d'en savoir plus sur l'univers de la radio et du podcasting, vous allez très certainement apprécier ce nouvel épisode mensuel des ondes Vocast. Bienvenue à vous.
Des ondes Vocast.
Et je ne suis pas tout seul à mes côtés, deux passionnés, deux marques, mais deux profils différents. On commence avec Marc Rigaud, ingénieur du son, responsable technique. Alors Marc Rigaud qui ne fait pas comme tout le monde, lui part en vacances avant l'été.
C'est exactement ça, tout à fait.
Mais c'est bien.
Alors
mais
oui, tu as passé 15 jours en Norvège, si j'ai bien compris.
Exactement, exactement.
Et donc justement, Marc, pour la partie zapping et actu de cet épisode, on va parler un petit peu des radios en Norvège et surtout ton retour d'expérience après 15 jours à écouter la radio en DAB+, un an et demi après le switch-off, l'arrêt quasi complet.
Plus de FM du tout.
Et oui, un retour d'expérience concret qui s'annonce très intéressant. Juste après la partie innovation avec notre animateur des vallées préférées, Marc Mollier, matinalier de Pyrénées FM.
Voilà, deux marques. Alors je propose à Marc Rigaud de s'appeler Robert pour changer, pour distinguer...
Mais j'allais te proposer la même chose en plus pour toi.
Marc et Robert, comme ça.
Alors du coup, Marc, premier du nom, avec toi, on parlera du podcast, mais aussi d'un navigateur internet particulier. Et vous verrez que étrangement, on pourra faire des liens intéressants, notamment pour régler les problèmes rencontrés dans le secteur, que ce soit la rémunération des créateurs par les applications qui utilisent leur contenu, mais aussi pour les mesures d'audience considérées comme incomplètes pour développer le marché. Donc bien entendu, à la suite de cette chronique, je serais heureux d'avoir votre avis via Twitter, @anthonygeouderaud, ou par mail contact@vocast.fr. Ce billet d'innovation a aussi sa version textuelle sur Medium. Le lien est dans la description de l'épisode du podcast. Et enfin, pour la fin de l'épisode, Eddie Benalla traitera des pubs télé, des radios. Sur son site radioscope.fr, il a répertorié plus de 1000 spots de pubs TV classés par radio. Donc Eddie nous parlera des réclames qui ont marqué son attention. Vous écoutez Des Ondes Vocast, on commence avec un focus sur la radio en Norvège. Tout de suite, c'est le tour des ondes en 80 tours.
Des Ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours.
Pour cette édition, un zapping un peu particulier car Marc, tu étais le mois dernier en Norvège et tu en as profité pour écouter les radios là-bas. L'écoute se fait exclusivement en DAB+, pour la plupart des radios, puisqu'en 2017, progressivement sur l'année, l'AFM a été éteinte pour toutes les radios nationales et régionales. Alors l'AFM n'étant aujourd'hui utilisée que pour une centaine de radios locales sur certaines parties spécifiques du territoire. Donc pour écouter la radio en Norvège, il faut utiliser son poste DAB+.
Ben oui, mon cher Anthony, et ces quelques semaines à batifoler en voiture dans les contrées norvégiennes m'ont permis d'avoir ma première confrontation grandeur nature avec le DAB, puisque je n'avais pas écouté sur les zones test en France.
Ah, tu dis DAB, toi? T'es comme ça?
Ouais, DAB, DAB,
DAB
oui.
Plus.
DAB plus, exactement. Oh, la RNT, là, tout ce que vous voulez. Bon, j'étais quand même curieux de savoir ce que ça allait changer réellement d'écouter des radios par ce nouveau canal numérique qui était censé être la radio du futur. Alors déjà, en entrant dans ma jolie voiture de location multi-option dont le DAB, mais bon, même si maintenant cette série pour les voitures là-bas, j'ai voulu vérifier que nous n'étions pas victimes d'une manipulation d'une quelconque organisation mondiale pro-numérique et j'ai tout de suite basculé sur la FM et voilà ce que j'ai écouté.
Il n'y a pas une petite radio d'un pays voisin qu'on arrive à capter?
Je n'en ai pas entendu là où j'étais.
Bon, moi, voilà, je trouve ça agréable à écouter.
Alors, ça dépend, oui, pour vous endormir, Anthony.
Bon, en tout cas, c'est OK. Donc, il n'y a rien, en fait.
Il y a cette petite mélodie sympathique que vous avez déjà dû entendre. Mais en tout cas, on ne nous a pas menti. La bande FM est désormais officiellement déserte en Norvège. Et cela fait drôle un peu quelque part. Bon. Après, j'ai pas mal fait de route, donc je suis resté sur le DAB+, j'ai pas écouté partout, tout au long de mon périple, s'il y avait certaines radios locales et tout ça. Mais de toute façon, je ne doute pas que le terrain de jeu désormais vierge de la bande FM ne soit pas utilisé ici ou là par des radios, comment dire,
amateurs,
un peu pirates.
Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça. Mais
c'est vrai qu'il y a de la place pour tout, après ouais. C'est excellent.
Je sais pas comment ça va se passer, mais bon, en tout cas, orphelin de la bande FM, tu t'es rabattu sur le DAB+. Alors ce monde tout nouveau, ça donne quoi?
On peut pas dire déjà que j'étais totalement en terrain inconnu, car même si ma maîtrise du norvégien est très limitée, voici la première radio sur laquelle je suis tombé et qui a été un peu le fil rouge de mon périple, et je pense que vous devriez ne pas avoir trop de mal à reconnaître ce que c'est.
Energy, new, music first.
This is David Guetta.
Ah oui, tout de suite on connaît voilà, c'est énergie, hein, énergie Norvège, hein, créé en 1998. La radio est opérée par un des deux grands groupes, hein, de radio de Norvège, hein, P4 du Modern Times Group. On note quand même que la part d'audience de la franchise en Norvège n'a rien à voir avec celle de la radio jeune en France, hein, selon Kantar TNS Norway. En 2018, Energy Norvège, c'est 1,1% de part de marché sur les 12 ans et plus, et bon, quand même 4,7% sur leur cœur de cible, à savoir les 20-34 ans. Donc c'est quand même loin de ce qu'on peut trouver en France. Bref, en tout cas, toi, ton avis sur cette radio Energy Norvège en DAB+.
Bah, écoute, là, je te cache pas, avec le titre qu'on a entendu, j'en peux plus en fait, hein, car chaque jour j'ai dû l'entendre au moins plus de 3 ou 4 fois, alors que ça soit sur cette radio ou sur d'autres radios. Donc bon, Energy Norvège, pardon, c'est un petit peu comme Energy en France, tu entends un peu toujours la même chose, les radios musicales en DAB, donc c'est les mêmes recettes qu'en FM. Tu prends 20 titres, tu les mets en rotation toute la journée et hop, c'est parti.
Mais après, bon, enfin, tu peux zapper, je veux dire, si ça te plaît pas, tu peux zapper de radio en radio si ça marche comme en FM.
Bon, alors tout à fait, je vous le confirme à tous les deux, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Mais le DAB+ réserve en mobilité une surprise extrêmement déplaisante par rapport à la FM. Quand vous passez dans une zone blanche ou en limite de zone de couverture en France avec votre autoradio, le signal se remplit de plus en plus de parasites, de grésillements, jusqu'à soit disparaître totalement, soit redevenir meilleur pour différentes raisons. Eh bien, en DAB+, ça coupe de manière très sèche, tout simplement. Et ça reprend de manière tout aussi inattendue au bout de quelques secondes ou quelques minutes.
Le principe
après,
de l'Amérique.
Après, il faut dire, en Norvège, c'est quand même très montagneux aussi.
Alors,
comme
j'étais au nord de la Norvège, effectivement, c'est très montagneux.
Aussi, hein.
Mais ça a pu m'arriver aussi. Alors, c'était pas vraiment des plaines, mais dans des endroits en bord de mer où, pareil, ça
pareil
a
aussi
pu couper. Donc, bon, quand c'est comme ça, c'est totalement agaçant au final. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça aussi, cette expérience de choses qui coupent complètement en regardant un film en streaming et tout d'un coup le film s'arrête en entendant
même en TNT,
que le
on connaissait en TNT.
Oui, même en TNT, on a un peu connu ça.
Alors,
aussi.
Alors en TNT, normalement, quand vous êtes voilà, sauf si vous regardez la télé en voiture, et là j'espère que personne de la police ou de la gendarmerie ne nous écoute.
Bon, en tout cas, c'est étonnant que tu dises ça parce que on sait que les 16 radios commerciales couvrent en théorie 93% de la population. En théorie, hein, et les 15 radios publiques nationales de NRK, 99%, voire quasiment 100% pour la radio historique P1. Donc, du coup, enfin, tu as pu quand même écouter d'autres radios qui étaient peut-être un peu plus disponibles constamment, non?
Alors, effectivement, j'en ai écouté, disponible constamment, la zone où j'étais, encore une fois, la Norvège, c'est un très grand pays, je n'ai pas fait toute la Norvège, ouais, mais le peu que j'ai fait, il n'y avait pas forcément un choix exceptionnel. Alors, il y a quand même un choix qui est plutôt large dans ce que j'ai vu quand je suis allé dans des grandes villes ou des choses comme ça. Alors, ben justement, tu parlais de la radio NRK P1, la plus écoutée de Norvège, 38% de part de marché en 2018 sur les 12 ans et plus. Et on peut en écouter un extrait, comme ça, on va permettre de
réviser le norvégien.
Voilà, tout à fait.
Klokka den har blitt 8 den, og du får de siste nyhetene her i P1.
Vy-sjefen tjener over 6 millioner kroner og får økte bonuser til tross for tapte anbud. Rakett har truffet utenlandske oljeinstallasjoner i Irak. Her NRK Dagsnytt, klokka 8.
Nyhetene fikk du av Ingvild Anita Velde.
God morgen, visker du.
Extrait, hein, de la radio NRK du service public, hein, P1, qui est certes la plus écoutée de Norvège, mais qui est passée de presque 58% de part de marché en 2008 à 38% en 2018, d'après Media in Norway. Alors c'est, bon, cela s'explique par l'arrivée de la concurrence, hein, en numérique, comme on l'a dit, mais aussi par le programme P1+, hein, attirant particulièrement les auditeurs seniors de 65 ans et plus. Alors du coup, Marc, tu ne comprenais pas forcément ce qu'il se disait quand c'était autre chose que la musique, mais en tant qu'ingénieur du son, je suppose que tu as eu une écoute très attentive sur la qualité du son.
Alors, j'ai écouté, on va dire, attentivement, effectivement, à défaut des paroles. Et comme le DAB nous promet une bien meilleure qualité que la diffusion analogique FM, je me suis dit, tiens, attirons notre écoute là-dessus. Bon, promesse compliquée à tenir sur quelque chose de subjectif quand même, hein. Chacun verra midi à sa porte. Le spectre du débat identique à « est-ce que le son est meilleur sur CD que sur vinyle » va rejaillir, j'en suis certain. Alors j'ai quand même deux remarques, j'espère, assez objectives à faire. D'abord, le DAB+ a un gros avantage. Quand vous passez d'une station à l'autre, la puissance est la même, donc vous n'êtes pas obligé de jouer du bouton de volume à chaque zap. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, la différence entre deux radios qui diffusent les mêmes titres se joue donc uniquement sur la couleur qui est donnée au programme. Alors attention, une petite attention, Soamai d'Avamax qu'on a entendu tout à l'heure, c'est tout aussi irritant au bout de 20 fois, quelle que soit la couleur. Je préfère le dire au cas où des programmateurs nous écoutent. Ouais, voilà.
J'aime bien, moi, Vamax.
D'accord, tu iras faire un tour en Norvège. Je te promets que tu n'aimes plus vraiment. Bon, ensuite, j'ai pu remarquer que cette histoire de qualité supérieure du son qu'apporte le DAB+, de son plus clair, etc., c'est quand même un artifice marketing. Car dans les faits, cela ne s'applique que sous certaines conditions. Je m'explique, je me suis retrouvé un matin dans une salle de bain à Tromsø où se trouvait un petit poste sur lequel jouait une radio. Eh ben là, j'ai eu l'impression de retrouver le même son que dans la salle de bain de mon grand-père à la fin des années 90, qui écoutait France Inter en se rasant. Alors ben voilà, encore une fois, en radio, on ne sait jamais sur quoi l'auditeur écoute notre programme. Et c'est rarement sur un système d'une qualité exceptionnelle.
Voilà, en tout cas, pour conclure, Marc, le DAB et les radios norvégiennes, bonne ou mauvaise expérience pour toi ?
Ben voilà, je suis assez partagé parce que pour ce qui est des radios, l'offre est plutôt intéressante, mais je n'étais pas forcément dans des zones, comme je disais, avec des grandes villes où la palette des radios est la plus grande. Cependant, ce que j'ai entendu m'a plutôt plu et j'ai fait des découvertes assez sympas. Bon, sauf un titre,
sauf un titre,
mais
on a compris.
Vous avez compris ce que c'était. Bon, en tout cas, on a parlé du service public NRK, du groupe privé P4 avec Énergie Norvège, mais pas du second grand acteur radiophonique en Norvège, le groupe allemand Bauer, qui a d'ailleurs lancé début 2019 une nouvelle radio, Big Hip Hop R&B.
Donc justement, on écoute un extrait.
Big Hip Hop and R&B. Let's go! Giving you non-stop hip hop and R&B. Listen anywhere, anytime. Download our free app at bigradio.no. Lyrically insane, going against the grain. We run the town. All day, all night, with all the time. This is Norway's Big Hip Hop and R&B. B.I.G.
For the ladies, baby.
Okay. Big Hip Hop and R&B.
Si vous avez déjà écouté des radios norvégiennes, dites-nous celle que vous préférez et racontez-nous votre expérience avec le DAB+, comme a fait Marc. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est une bonne ou une mauvaise expérience.
Écoute, sur le DAB+, justement, je ne peux pas dire que ça soit une mauvaise expérience. Mais vu mon attente et ce que je m'étais laissé entendre dire concernant le DAB, je suis quand même un peu déçu. De mon point de vue, le DAB+, ça n'apporte pas grand-chose par rapport à la FM. Et c'est comme quand on te marque sur ton yaourt habituel « Nouvelle recette » et que quand tu le goûtes, tu te dis, après avoir pris ton air le plus inspiré, « Ah oui, peut-être que c'est vachement meilleur. » Sauf que la différence de prix entre l'ancienne version de ton yaourt et la nouvelle, c'est pas la même que la différence de prix entre un poste FM et un poste DAB+. Alors bon, il faut juste espérer qu'avec l'arrivée du DAB+, l'auditeur n'aura tout simplement pas envie de changer de crèmerie.
Ah oui, carrément un petit jeu de mots pour terminer. Quel poète ce Marc. Bref, les trois radios citées au sein de cette chronique, Énergie Norvège, NRK1 et Big Hip Hop R&B, sont intégrées temporairement à notre système de pige horaire. Donc tout au long du mois de juillet, n'hésitez pas à réécouter les piges heure par heure de ces radios. Le lien de notre portail de réécoute de pige est dans la description. Un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en Norvège, les radios se sont organisées autour de Radio Player pour créer un portail unique permettant d'écouter les principales radios norvégiennes et podcasts associés, ce qui est une excellente chose, à mon humble avis. Car justement, c'est peut-être ça qu'il manque aux podcasts et même aux radios en France. C'est une structure qui permet de réunir les éditeurs et créateurs afin que ceux-ci maîtrisent ensemble la technologie pour mieux organiser la compétition sur le contenu. On en parle tout de suite dans la partie innovation du podcast.
Des ondes vocastes ? La radio a tout pour réussir.
Et oui, la radio a tout pour réussir et le secteur du podcast aussi. Hein.
Oui, et le podcast semble tendance en 2019. Tout le monde en parle, alors que je me rappelle en avoir entendu pour la première fois, il y a quoi, il y a moins de 10 ans, on a entendu parler de ça.
Hein. Ouf, même plus.
Ouais,
ça, hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Voilà. Enfin, j'ai l'impression d'entendre parler de nouvelles applications de podcast tous les jours. Est-ce que j'en ai compris maintenant que les podcasts commencent à prendre de la valeur? Les producteurs de contenu commencent à s'opposer même à certains nouveaux projets.
Et oui, hein, depuis quelques mois déjà, l'arrivée d'intermédiaires pour l'écoute de podcasts pose problème. Des applications comme Magellan, Toutac et Talkers, pour ne rester qu'en France, ont toutes comme ambition de développer le secteur du podcasting en apportant des solutions pour favoriser l'écoute et la découverte de contenu audio.
Bon, ces startups ont sûrement raison de vouloir se positionner sur ce créneau, mais oui, a priori, oui. Le marché du podcast ne peut difficilement se construire en l'état. C'est ça le problème. Alors,
effectivement, à chaque nouvelle application qui se lance, il y a toujours les mêmes levées de boucliers, toujours les mêmes questions et problématiques hein, qui surgissent. Quid de la rémunération des créateurs par les applications qui utilisent leur contenu ? Plus globalement, quelles autorisations pour quelles conditions ? Et aussi, comment mesurer la performance d'un podcast ? Quelles mesures d'audience complètes, entre guillemets, pour développer le marché ?
Oui, mais ça se comprend, ça. C'est ce que l'on constate. D'ailleurs, c'est que les plateformes de lecture de podcasts sont des intermédiaires qui ne partagent pas forcément d'intérêt avec les créateurs.
Alors oui, carrément. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, hein, je pense pour vous aussi, c'est TuneIn. Cet agrégateur de radio et de podcast est devenu une référence à tel point qu'il est le service par défaut pour écouter des radios sur les assistants vocaux d'Amazon et Google. TuneIn est une entreprise privée qui n'a aucun compte à rendre aux éditeurs radiophoniques. La société contrôle, comme bon lui semble, les médias agrégés.
Ouais, c'est vrai, l'application TuneIn place des publicités et propose des abonnements à ses utilisateurs au détriment des radios et podcasts recensés qui ont pourtant participé au succès de l'entreprise. Du coup, on peut se poser la question, faut-il un intermédiaire pour l'écoute des podcasts ou n'est-ce pas justement nuisible pour l'écosystème ?
Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Dans tous les cas, imaginons qu'une société honnête veuille, entre guillemets, hein, veuille développer des fonctionnalités en concertation avec les acteurs du secteur. Eh bien, elles n'auront malheureusement aucun organisme de référence vers qui se tourner, comme le faisait remarquer le fameux James Cridlon, éditeur de l'excellente newsletter Pod News. Et je suis d'accord avec lui, il faudrait au moins un ensemble d'accords sur les principes de base, comme la mise en forme des descriptions d'épisodes. Il faut aussi envisager une entité en charge de décourager les pratiques allant trop à l'encontre des intérêts des producteurs de contenu. Pour un exemple concret, hein, je vous invite à vous renseigner sur l'affaire Luminary, si vous la connaissez pas, aux États-Unis.
Alors du coup, la solution avant tout, ce serait d'avoir un organisme avec un maximum d'acteurs, c'est ça, Anthony ? Radio, agences de production, ouais, mais aussi des associations de producteurs indépendants, des régies.
Alors oui, l'idéal, mais alors là, c'est vraiment utopique, serait de rassembler l'écosystème hein, du podcast dans sa globalité avec un système de gouvernance analogue à celui de Médiamétrie. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que personne ne semble vouloir s'entendre sur la moindre chose. Chacun peut avoir une vision du média, une certaine écriture, une certaine façon de faire avec des ambitions économiques différentes, mais cela ne doit pas créer d'opposition. L'écosystème aujourd'hui est tristement peu structuré. Il n'y a aucun regroupement cohérent autour de la radio à la demande. Il serait pourtant judicieux d'avoir une collaboration autour de la technologie pour une meilleure compétition autour du contenu. Les tentatives de regroupement manquent systématiquement de cohérence, incompréhension des limites techniques, refus des ambitions économiques disparates, etc. Espérons que le geste qui a annoncé hein, la création d'un groupe de travail sur la distribution des podcasts changera la donne dès la première réunion le 4 juillet.
Alors du coup, je résume, Anthony, pour toi, pour assurer l'avenir du podcast, il faudrait définir des règles, des standards, mais en réalité cela serait insuffisant car les applications plateformes auront toujours le dernier mot. C'est ça en fait c'est eux qui maîtrisent les tuyaux en gros.
Et ben voilà, c'est la solution naïve hein, qui consisterait à avoir un portail unique et donc fermé. Alors tout à l'heure je disais qu'il fallait une collaboration autour de la technologie pour une meilleure compétition autour du contenu. Cette phrase est clairement et fortement inspirée de l'idéologie de Radio Player. Hein, j'en parlais en fin de zapping tout à l'heure. Radio Player est un projet visant à développer des technologies unifiées pour les radios nationales du Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Suisse, Norvège, Allemagne, Autriche, Canada et même du Pérou. Alors ce qui serait cohérent mais très extrême, c'est que les radios, agences et producteurs indépendants s'organisent et développent ensemble une technologie unique. Oui, ça demanderait d'abandonner le RSS, hein, sans quoi il y aurait toujours possiblement des applications tierces venant se servir dans les catalogues de contenu. Mais en plus de maîtriser parfaitement le tuyau au sein duquel transite leur contenu, l'intérêt d'un lecteur unique réside aussi dans le fait que les statistiques ne sont plus limitées vu qu'il n'y a plus une multitude d'applications de lecture, multiples clients.
Ouais, mais je crois que ça fait débat au sein de la communauté, oui, des podcasteurs. Sûr. Et c'est vrai qu'on comprend facilement qu'un annonceur veuille savoir combien de fois sa publicité en mid-roll a effectivement été lue. Et il est utile aussi pour un créateur de contenu de connaître son audience en analysant les taux d'écoute, les durées moyennes d'écoute par épisode et les points d'arrêt principaux, hein, les moments où les utilisateurs ont le plus abandonné la lecture.
Et oui, hein, tous ces indicateurs qui semblent nécessaires, hein, pour développer le marché publicitaire des podcasts selon les échos ne peuvent s'obtenir qu'en plaçant des marqueurs analytiques de façon uniforme sur toute application cliente lisant le podcast, en analysant les clics utilisateurs sur les boutons play par exemple. Alors ça, c'est absolument pas possible d'avoir ces données en analysant les logs serveurs de son hébergeur.
Oui, mais alors pour en revenir à l'idée de portail unique, c'est quand même risqué, avant tout difficile d'imaginer la mise en place d'une telle solution, les changements à opérer sont trop importants, et puis aussi pour abandonner le RSS, c'est quand même compliqué ça, non?
Oui, tu as complètement raison. Alors la force du podcasting aujourd'hui réside justement dans son format ouvert, comme le dit si bien le manifeste du podcast ouvert lancé par Yann Reeder. C'est mieux pour l'auditeur d'avoir le choix entre différentes applications pour écouter un podcast. Ça, oui.
Oui, après tout, le web actuel est également considéré comme ouvert. Et heureusement qu'il existe différents navigateurs pour accéder au site.
Alors justement, ça tombe bien parce que je voulais en venir à une solution qui me paraissait idéale. Et justement, connaissez-vous le navigateur web Brave? C'est un navigateur respectueux de la vie privée, basé sur le même code source que Google Chrome, avec un adblocker intégré. Brave donne le choix à ses utilisateurs en matière de publicité, et les internautes sont rémunérés en jetons BAT quand ils regardent des annonces. Ces jetons obtenus peuvent être utilisés pour faire des dons aux éditeurs des sites web visités.
Attends, mais ces jetons virtuels, ça vaut rien dans la vraie vie alors?
Alors si, la monnaie numérique, on va dire, BAT, est échangeable facilement en euros ou dans d'autres devises sur des plateformes comme Uphold ou Coinbase par exemple. En réalité, c'est une expérimentation intéressante de la technologie blockchain, la fameuse. Alors pourquoi utiliser la technologie blockchain, me diras-tu, et pas directement l'euro? Eh bien tout simplement car la technologie blockchain, du fait qu'elle repose sur une base décentralisée, présente grandement un intérêt dans le sens où aucune personne seule ne peut la contrôler, aucune entité ne pourra théoriquement être à la tête d'un monopole avec ce système.
Oui, mais aujourd'hui, on sait que le marché de la pub sur Internet est majoritairement sous l'emprise de deux sociétés, hein, Facebook, Google. Donc le système de Brave règle le problème?
Exactement. Alors je vous invite à consulter le livre blanc qui est assez complexe, mais je fournis le lien dans la description. Ça explique très bien le projet en détail. Brave apporte une vision du web où annonceurs, éditeurs et utilisateurs ne sont plus parasités par des intermédiaires, et ce de façon décentralisée.
Explique, Anthony.
Comment ça se passe concrètement? Alors, les annonceurs payent en euros ou autre, hein, ils payent de l'attention utilisateur, modélisée en actifs numériques, BAT. BAT, ça veut dire Basic Attention Token. Donc pour résumer vraiment très grossièrement, imaginons qu'un annonceur veuille payer pour une minute d'attention de 1000 utilisateurs. Alors ceci aura toujours la même valeur en termes de temps de cerveau disponible. On est d'accord, c'est une minute d'attention, 1000 utilisateurs. Mais selon la demande, le prix à payer ne sera pas forcément le même. Alors, s'ils veulent gagner des BAT, les utilisateurs regardent des publicités non intrusives dans le respect de leur vie privée. Ils sont rémunérés en BAT, représentant un certain temps d'attention utilisateur. Les sites web, eux, peuvent recevoir des dons en BAT de la part de leurs visiteurs en deux clics directement depuis le navigateur, à côté de la barre d'adresse. Alors, un système aussi permet de rétribuer les éditeurs automatiquement en fonction du temps qu'un internaute a passé sur chacun des sites. Les éditeurs ont ainsi des jetons, des BAT, hein, sur un portefeuille virtuel, et ils peuvent décider de les échanger contre des euros en les échangeant donc sur des plateformes de crypto-monnaie.
Et d'où le trading sur ces plateformes, c'est ça?
Exactement. Donc, plus il y aura d'annonceurs, plus le cours du BAT sera à la hausse si la quantité d'attention utilisateur disponible stagne. Pour résumer, les éditeurs sont libres d'échanger leurs jetons contre des euros, des dollars, quand ils le souhaitent, selon le cours du BAT. Mais revenons maintenant au podcast, parce que c'est quand même ça le sujet. Actuellement, le navigateur Brave se base sur les noms de domaine. Exemple, vocast.fr, google.fr, twitter.com, pour rémunérer les éditeurs. Sauf pour YouTube, où la répartition des rétributions se fait par chaîne YouTube. Donc, si on imaginait que la rétribution pouvait aussi se distinguer par flux RSS, et si on pouvait facilement écouter un podcast via le navigateur, chaque podcasteur pourrait recevoir des contributions en BAT par somme de durée d'écoute et ou par don.
Donc, plus besoin d'avoir des intermédiaires comme Patreon pour les dons.
Exactement. Et la fonctionnalité est intégrée au sein du client de lecture. À noter que les utilisateurs peuvent aussi acheter des BAT s'ils n'en ont pas assez pour faire des dons plus significatifs, sans oublier que les auditeurs font le choix d'avoir de la publicité ou non. Et les annonceurs bénéficient sans intermédiaire d'un temps d'écoute auditeur certifié, mesuré sans compromettre la vie privée des auditeurs.
Bon, et quand même, l'aspect navigation et gestion des abonnements, hein, il reste tout ça. Il faudrait un module peut-être complémentaire pour avoir quelque chose d'aussi ergonomique à l'usage qu'Apple Podcast, par exemple.
Oui, c'est sûr. Hein, je parlais de Brave, mais c'était juste dans la philosophie, parce que Brave, ça sert à visiter des sites web. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que l'équipe de Brave développe éventuellement une telle solution. Les acteurs du podcasting peuvent se réunir et décider de concevoir ensemble une plateforme sur cette même base, avec un mode de gouvernance équitable et profitant à tous. Je parle de Brave, hein, mais il y a plein d'autres projets sur le même principe. Veracity, qui se focalise sur les vidéos, ou même Radio Yo, même si c'est difficile de savoir si ces équipes derrière tiennent la route. Un autre projet en cours de développement conçu par un Américain, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, voilà, c'est l'Américain qui développe seul dans son coin, Podcrypt, hein, repose sur ces mêmes approches.
En gros, un tel projet à grandeur nature serait certes compliqué à mettre en œuvre, mais ce serait très bénéfique pour tous les acteurs du podcast. Je pense qu'il faut d'abord qu'un organisme réunissant un maximum d'acteurs se constitue pour éventuellement concevoir ensemble un tel dispositif.
Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, de tout ça, hein, vous qui nous écoutez, vous pouvez donner votre avis et me dire ce sur quoi vous êtes d'accord et ce sur quoi peut-être j'ai tort. En tout cas, c'est assez complexe, hein, je le reconnais. J'ai essayé de simplifier, même si cette chronique demeure longue, mais je suis intimement persuadé qu'une telle vision des choses sera la norme dans quelques années. En attendant, hein, des publicités envahissantes et profitables pour personne vont continuer à polluer les médias. Enfin, il y a un type de publicité que j'ai plaisir à écouter, surtout à voir en télé, c'est les spots TV faisant la promotion des radios. Ça, c'est un petit
aussi.
Plaisir. Et donc, justement, Eddie Benalla, hein, les recense sur son site, hein, radioscope.fr. Plus de 1000 pubs visionnables sur son site. Il nous a sélectionné des publicités parfois très anciennes. Eddie a ressorti ses vieilles cassettes pour l'occasion, pour la partie archives des ondes vocastes.
Des ondes vocastes, les archives.
Chères oreilles connectées au Vocast, bonjour. Dans cette partie archive, on va s'intéresser à la télé. Et vous allez me dire, quel rapport avec la radio ? Et attendez, j'y viens. La télévision a toujours été le bon moyen de parler de la radio avec des images, et notamment par la publicité. En effet, il n'est pas rare de retrouver nos stations FM communiquées à travers l'affichage et la presse, mais aussi à la télévision. À l'instar de nombreuses marques et secteurs, la publicité télé, c'est bien évidemment un bon moyen pour une radio de se faire connaître, de mettre parfois une tête sur une voix et de communiquer ses changements. C'est par ce biais, par exemple, qu'en 99, je découvrais ce qu'était le nouveau logo d'Europe 2, par exemple.
Europe 2, la musique plus fort que tout.
Et les années 90, justement, c'est à mon sens la décennie la plus intéressante à explorer en ce qui concerne la publicité télé-radiophonique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet pour suivre l'actu radio, ni les webcams et vues sur les studios, et le mythe de la voix était très présent. Et du coup, la pub mettait vraiment une image à la radio. Et surtout, le paysage FM était bien moins concentré par rapport à maintenant. Et du coup, en visionnant les spots de l'époque, on sent la différence de moyens entre un spot de Nostalgie ou de Skyrock face à une campagne de RTL ou de Europe 1 qui, eux, mettaient beaucoup plus de moyens, notamment en 94 lorsque Europe 1 faisait appel à Jean-Paul Goude pour sa communication.
Le rire sur Europe 1 est communicatif.
Et l'exercice de la pub est parfois périlleux, hein, comme pour toutes les marques. Mais pour la radio, c'est différent parce que d'une part, la radio est un média de l'imaginaire. Donc forcément, gare à ne pas trop le casser, cet imaginaire. Certains spots essayent donc de prioriser l'illustration au sonore, au jingle ou à la musique qu'elles diffusent, ou à mettre en scène un univers autour de la marque afin de mieux l'identifier auprès du public. Chose que RTL maîtrise parfaitement avec des spots mettant souvent en avant les Français. Et on reconnaît tout de suite la marque rien qu'à son célèbre top horaire de Michel Legrand que je vous présente pas et qui apparaît systématiquement dans chacune de ses pubs, et en 2008, elle se greffe même dans des scènes du quotidien, preuve que cette signature sonore est devenue un symbole reconnaissable et surtout indissociable de RTL. Et maintenant, un peu d'histoire, et puis justement, certains doivent se demander « Mais quelle est la pub la plus ancienne de l'histoire ?» Eh ben, je n'ai pas la science infuse, mais dans celle que j'ai pu consulter, la plus vieille à ma connaissance remonte à 1970, et c'était pour Radio Monte Carlo, qui mettait en scène deux animateurs vedettes de l'époque, Jean-Pierre Foucault d'un côté, André Torrent de l'autre.
Bonjour, vous allez bien ? Je m'appelle Jean-Pierre Foucault, vous savez que nous avons rendez-vous tous les matins, entre 10h et midi. Je vous fais une grosse bise. Voilà.
Ça va ? Rien de cassé ?
Ouais, ça va, mais 1400 mètres,
C'est où ? C'est 1400 mètres, c'est pas l'altitude, c'est une longueur d'onde.
Après, il faut se rappeler qu'à l'époque, la télévision, ça se limitait qu'à 3 chaînes publiques, et que forcément, les radios publiques étaient plus aptes à communiquer sur leurs antennes plutôt que les périphériques. Il n'était pas rare de voir France Inter ou France Musique communiquer sur leurs nouvelles émissions ou leurs événements, ce qui se fait encore aujourd'hui sur France Télévisions avec Radio France. Et puis les périphériques, elles, communiquaient énormément dans la presse plutôt qu'à la télévision. Il aura fallu attendre le début des années 80 pour voir les vraies premières campagnes TV fleurir à la télévision, notamment pour RTL et RMC. Et en parallèle à cela, les années 80, c'était aussi l'ouverture de la télévision au privé, avec Canal+, puis La 5, puis TV6 et M6. Et la seconde partie des années 80 ouvrait le bal de la publicité télévisuelle aux radios libres, qui étaient à ce moment-là déjà alors devenus des réseaux commerciaux.
R40 radios couleurs. Énergie, la plus belle radio.
Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est la super radio.
Skyrock, la super radio.
Aujourd'hui, la pub TV continue pour nos chères radios, même si elle se fait parfois plus rare à la télé, avec Internet d'une part qui permet de communiquer plus aisément et directement, et un éparpillement de l'autre plus moindre, la majeure partie des radios appartenant aujourd'hui à des groupes médias qui ont forcément plusieurs chaînes sur la TNT, convergence oblige. Il sera donc plus simple de voir un spot de RMC sur BFM TV ou NRJ et Chéri FM faire leur pub sur NRJ 12, par exemple. Idem avec RTL, RTL 2 et Fun Radio, rachetés aujourd'hui par le groupe M6, et dont les publicités sont maintenant diffusées exclusivement sur les chaînes du groupe. Enfin, Anthony m'a demandé de faire un choix dans mes pubs préférées et dans celles que je zappe. Merci Anthony, parce que le choix était difficile. Mais dans les meilleures, outre celle d'RTL dont j'ai déjà parlé, il y a celle de Hit FM en 1985, imaginée par Jacques Seguela entre autres. Une pub qui était diffusée surtout au cinéma. Hit FM, pour rappel, appartenait à UGC et dont la mise en scène, ajoutée à cela l'identité sonore de la radio, me donnait vraiment envie de retourner dans les années 80. En second, et c'est plus personnel, mais il y a le premier spot de radio que j'avais découvert gamin, c'était en 94, Fun Radio, qui vendait son nouveau format rock et le slogan « Ouvrez-la » sur du Offspring, comment l'oublier, et avec une apparition rapide de Doc et Eddie Fool en studio d'ailleurs dans la vidéo.
Fun Radio, ouvrons-la.
Et un spot qui reflète un peu la génération X de l'époque. Et en troisième, un spot bien décalé pour Europe 1 en 2004, avec le message « Difficile d'être plus intéressant qu'Europe 1 », qui s'illustrait avec une maman écoutant son gamin qui revenait de l'école et qui finit par lui mettre un vent. En tout cas, cette pub m'a beaucoup fait rire.
Ensuite, il croit qu'après, il devient mort et il dirait que s'il a mangé par terre. Et après, il va voir si c'est prêt. Et après, si c'est prêt, le T-Rex prenait sa proie pour l'attaquer. Et puis après, le T-Rex, il ramène un tout petit poisson parce que c'est un petit peu tout bébé.
Voilà, après, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, mais je vous conseille aussi celle de FIP en 91 qui définit bien en animation l'éclectisme de la radio qui marcherait encore aujourd'hui. Très beau spot. Et il y a celle de France Culture aussi, toujours dans les années 90. Là aussi, très simple mais efficace concernant ce que dégage l'antenne. Ensuite, pour ce qui est des pires, disons que c'est surtout parce que leurs messages ne paraissent pas clairs du tout, en tout cas pour moi. En premier, il y a Virgin Radio, dont la première campagne en animation pour son virage pop-rock électro était pour moi réussie. Mais ils avaient enchaîné quelques mois après avec un spot très bizarre et minimaliste avec une fausse bourgeoise pour annoncer le jeu du loyer remboursé.
En octobre, sur Virgin Radio, Enora, Zazoun et Baby Back vous payent votre loyer tous les jours à 22h20.
Oh, voilà une bonne idée! Mais non! 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 Non!
Et si, en octobre, c'est Virgin Radio qui paie votre loyer.
Oh non, quand même.
Alors là, on n'a pas l'image, mais là, sur la fin, elle se dandine la poitrine. Pourquoi? On sait pas. Le spot, de mémoire, n'est pas passé sur beaucoup de chaînes, en plus. En second, une autre pub passée assez discrètement en 2009 pour Énergie, avec un simple message à l'écran lu par la voix puissante de Richard Darbois.
Si tu te lèves tous les jours du pied gauche, tu finiras avec une jambe plus courte que l'autre. Dès le matin, écoute Énergie.
Et donc là aussi, bah, j'ai rien compris à la phrase. Aucune mise en avant d'émission phare non plus. Peut-être pour mieux valoriser la marque et son contenu phare, la musique, hein. Qui sait. En troisième, il y avait RMC en 97 avec trois pubs très courtes qui ne disaient pas grand-chose, si ce n'est autour du sud, avec un melon, un bol ou un arbre qui se voit pousser des oreilles. C'est tout. Et c'était pas très beau. Et enfin, Virgin Radio, toujours, lorsqu'ils ont communiqué sur leur virage hit à l'époque du max de tubes, une époque pour moi à oublier, voilà ce que ça pouvait donner.
Radio.
Un max de tubes.
Donc vous l'avez entendu, aucun enchaînement sur les musiques, ce qui est un peu scandaleux quand on a connu Europe 2 et les fameuses tortillades. Écriture du slogan pas très propre dans la vidéo. Bref, ça m'a donné l'impression que tout ça c'était un peu bâclé, même si je reconnais que l'idée de base était sympa. En tout cas, voilà, la radio communique à la télé, hein, c'est aussi un bon moyen de refaire l'histoire de la radio à travers ses pubs. Et d'ailleurs, vous pouvez toutes les visionner, ou du moins une grosse partie d'entre elles, sur radioscope.fr, rubrique pub TV. Et je serais même curieux de savoir quelles sont les pubs que vous trouvez les plus réussies, et à l'inverse, les ratées. N'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse. C'était Ed au micro des ondes de Vocast, je vous rends l'antenne et j'éteins la télé.
Chronique très intéressante d'Eddie, merci, radioscope.fr. Et sur ce site, hein, vous retrouverez des anciennes grilles, les histoires des radios aussi, les spots TV. Et donc justement, donnez-nous votre top 3 des meilleurs spots TV et votre top 3 hein, des pires en consultant le site radioscope.fr. Vous nous envoyez tout ça par mail, contact@vocast.fr ou par Twitter, @AnthonyGouraud, ANTHYGOU2RAUD. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert. Et pour les crédits musicaux, hein, c'est un extrait de la BO de Radio Star, un film que j'adore. Pour être exact, c'est Rob, It's a Blast. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à consulter notre site web hein, également, vocast.fr. Vous pouvez nous écouter partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, TuneIn, et même via l'assistant Google. Dites tout simplement à votre enceinte connectée Google Home ou à votre smartphone. Ok Google, demande à Des Ondes Vocast de lancer le dernier épisode. Merci à Marc et à Marc.
À Robert.
À Robert, oui, tout à fait. Désormais, avec plaisir.
Voilà. À la prochaine pour un prochain épisode avec vous. Rendez-vous en tout cas le 4 août pour le prochain épisode. Ciao.
Des Ondes Vocast.